Cinquième partie. 22-11-63. Chapitre 23. Une du Dallas Morning News du 11 avril 1963. Walker blessé par un homme armé. Par Eddie Hughes. Un homme armé d'un fusil de gros calibre a fait feu sur l'ex-major général Edwin A. Walker à son domicile mercredi soir, a indiqué la police, et a manqué sa cible de quelques centimètres. Il était 21h et Walker travaillait à son bureau quand la balle est entrée par une fenêtre à l'arrière de la maison et a percuté le mur à côté de lui. D'après la police, c'est un léger mouvement de Walker qui lui aurait sauvé la vie. Le tireur l'avait en parfaite ligne de mire, a déclaré l'inspecteur Ira Von Cleve. Il avait sûrement l'intention de le tuer. Walker a retiré plusieurs fragments de balles de sa manche droite et il avait encore des éclats de verre dans les cheveux quand les journalistes sont arrivés. Il a expliqué qu'il était revenu à son domicile de Dallas lundi après la première étape d'une tournée de conférences intitulée « Opération périple nocturne ». L'homme engagé dans cette croisade controversée a également confié aux journalistes. Dallas Morning News, du 12 avril 1963, page 7. Un malade mental blesse son ex-épouse et se suicide. Par Mac Dugas. Jody. Le doyen du lycée regroupé de Denholm, D.K. Simmons, 77 ans, est arrivé trop tard mercredi soir pour empêcher Sadie Dunhill d'être blessée. Mais les choses auraient pu tourner plus mal pour la jeune bibliothécaire de 28 ans. Selon Douglas Reams, l'agent de police de la ville de Jody, si D.K. n'était pas arrivé au bon moment, Miss Dunhill aurait presque certainement été tuée. Sollicité par les journalistes, Simmons a seulement déclaré « Je ne veux pas en parler, c'est terminé ». Selon le policier Reams, Simmons a réussi à maîtriser John Clayton et à lui arracher son revolver. Clayton a ensuite récupéré le couteau avec lequel il avait blessé sa femme et l'a retourné contre lui pour se trancher la gorge. Simmons, aidé d'un autre homme, George Amberson, de Dallas, a tenté en vain de stopper l'hémorragie. Clayton est décédé sur les lieux. Mr. Amberson, ex-enseignant au lycée de Denholm, arrivé sur les lieux peu de temps après que Clayton eût été neutralisé, n'a pu être joint pour commenter les faits. Mais il avait confié à l'agent Reams que le forcené, qui avait séjourné en hôpital psychiatrique, traquait peut-être son ex-épouse depuis des mois. Le personnel du lycée de Denholm avait été alerté et la proviseure, Ellen Doherty, s'était procuré une photo de lui. Mais il semblerait que Clayton ait modifié son apparence. Miss Dunhill a été transportée par ambulance à l'hôpital Parkland Memorial de Dallas, où son état n'est pas jugé préoccupant. Je n'ai pas pu la voir avant le samedi. J'ai passé la plupart de ses heures dans la salle d'attente avec un livre que je n'arrivais pas à lire. Ce qui n'était pas un problème puisque je n'ai pas cessé d'avoir de la compagnie. La plupart des profs du lycée sont passés prendre des nouvelles de Sadie, ainsi qu'une bonne centaine de lycéens. Ceux qui n'avaient pas le permis s'étant fait conduire à Dallas par leurs parents. Beaucoup sont restés pour donner leur sang afin de remplacer celui que Sadie avait perdu. Bientôt, ma sacoche fut bourrée de cartes de prompt rétablissement et de petits mots exprimant leur sollicitude. Et il y avait assez de fleurs pour que le poste des infirmières ressemble à une véritable serre. Je pensais m'être habitué à vivre dans le passé. Mais j'ai quand même été choqué par la chambre de Sadie au Parkland Memorial quand j'ai finalement été autorisé à la voir. C'était une chambre individuelle surchauffée et guère plus spacieuse qu'un placard, sans salle de bain, avec juste un horrible water dans un coin que seul un nain aurait pu utiliser confortablement, dissimulé derrière un rideau en plastique semi-opaque, pour une semi-intimité. Au lieu d'une télécommande avec des boutons pour faire monter et descendre le lit, Il y avait une manivelle, dont la peinture blanche avait été usée par de nombreuses mains. Évidemment, il n'y avait aucun écran de surveillance montrant en temps réel les signes vitaux reproduits par ordinateur, pas plus que d'écran de télévision pour le patient. À une potence métallique était suspendue une bouteille en verre emplie d'un liquide, peut-être une solution saline. Elle était reliée au dos de la main gauche de Sadie par un cathéter maintenu par un gros pansement. Moins gros cependant que celui qui recouvrait tout le côté gauche de son visage. De ce côté, une partie de ses cheveux avait été rasée et cette dissymétrie lui donnait l'air d'avoir été punie. Et en effet, c'était bien une punition qu'elle avait subie. Le chirurgien avait laissé une fente minuscule pour l'œil. Cet œil-là, et l'autre du côté intact de son visage, s'ouvrirent en papillotant quand elle entendit le bruit de mes pas. Et elle avait beau être droguée, l'éclair de terreur que j'ai vu s'allumer dans ses prunelles m'a serré le cœur. Puis, avec lassitude, elle a tourné son visage vers le mur. « Sadie, ma pépette, c'est moi. Coucou, moi. » a-t-elle dit sans se retourner. J'ai touché son épaule, laissée nue par sa chemise d'hôpital, et elle a chassé ma main avec un haut-le-corps. « S'il te plaît, ne me regarde pas. »« C'est dit. Ça ne compte pas. » Elle s'est retournée. Des yeux tristes, aux pupilles dilatées par la morphine, me contemplèrent. L'un m'épiant à travers un étroit judas de gaz. Une vilaine tache rouge jaunâtre affleurait à la surface du pansement. Du sang mélangé à une sorte de pommade, ai-je supposé. « Si, ça compte, » m'a-t-elle dit. « C'est plus grave que ce qui est arrivé à Bobby Jill. » Elle a essayé de sourire. « Tu vois à quoi ressemble une balle de baseball avec toutes ses coutures rouges ?» C'est à ça que Sadie ressemble maintenant, toute couturée de haut en bas. Ça s'estompera avec le temps. Tu comprends pas. Il m'a coupé toute l'épaisseur de la joue jusqu'à l'intérieur de la bouche. Mais tu es en vie, et je t'aime. Quand on m'enlèvera mes pansements, a-t-elle poursuivi de sa voix atone anesthésiée par la drogue, la fiancée de Frankenstein ressemblera à Liz Taylor à côté de moi. Je lui ai pris la main. J'ai lu quelque part, je pense pas être d'attaque pour une discussion littéraire, Jake. Elle a cherché à se détourner à nouveau, mais je n'ai pas lâché sa main. C'était un proverbe japonais. Quand il y a de l'amour, les cicatrices de la variole sont aussi jolies que des fossettes. Je t'aimerais avec n'importe quelle cicatrice sur le visage, parce que c'est ton visage. Elle s'est mise à pleurer et je l'ai tenue contre moi jusqu'à ce qu'elle se calme. Je croyais qu'elle s'était endormie quand elle a dit « Je sais que c'est ma faute. Je l'ai épousée, mais... » « Ce n'est pas ta faute, Sadie. Tu ne savais pas. » Oh, je savais qu'il tournait pas rond. Et je me suis quand même fiancée. Je crois que je l'ai fait surtout pour faire plaisir à mon père et à ma mère. C'était tellement ce qu'ils voulaient. Ils sont pas encore venus me voir. Tant mieux. Parce que je leur en veux à eux aussi. C'est affreux, non?
Tant que tu y es, mets-moi dans l'eau, moi aussi. J'ai vu sa foutue Plymouth bicolore de très près au moins deux fois. Et je l'ai aperçue du coin de l'œil peut-être deux autres fois.
Tu n'as pas à te sentir coupable de ça. L'inspecteur de la police d'État et le Texas Ranger qui m'ont interrogé m'ont dit que Johnny avait plein de plaques d'immatriculation dans son coffre. D'après eux, il devait les voler dans des motels. Et il avait aussi beaucoup de décalcomanies différents. Comment t'appelles ça déjà?
Des autocollants.
Je me souvenais de celui qui m'avait dupé au Candlewood.
Allez les Sooners! J'avais fait l'erreur de ravaler au rang d'harmonique du passé mes visions répétées d'une Plymouth Fury bicolore blanc sur rouge. J'aurais dû être plus avisé. Je l'aurais été si je n'avais pas eu l'esprit pour moitié à Dallas, accaparé par Lee Oswald et le général Walker. Et s'il fallait distribuer équitablement les reproches, alors Deke aussi méritait sa part. Après tout, il avait vu l'homme en face et remarqué ses profonds renfoncements sur ses tempes. Lâche prise, je me suis dit. C'est fait. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Mais si, ça pouvait l'être. Jake, est-ce que la police sait que tu n'es pas exactement qui tu dis être ? J'ai ramené ses cheveux sur le côté droit de son visage, là où ils étaient encore longs. Je suis tranquille là-dessus. Les policiers qui avaient interrogé Sadie avant qu'on l'emmène en salle d'opération nous avaient interrogé, Deke et moi. L'inspecteur de la police d'État avait tiédement réprouvé « ces hommes qui voient trop de westerns à la télé ». Le ranger avait appuyé cet avis, puis nous avait serré la main en disant « j'aurais fait exactement pareil à votre place. » Deke s'est arrangé pour m'impliquer au minimum. Il ne voudrait pas que le conseil d'administration du lycée se serve de ça pour te refuser ton poste l'année prochaine. Ça me semble incroyable que le fait d'avoir été agressé par un malade mental puisse entraîner ton licenciement pour immoralité. Mais Deke a l'air de penser qu'il vaut mieux éviter la publicité. Je ne pourrais pas retourner au lycée. Je ne pourrais pas me présenter devant les jeunes avec le visage que j'aurais. Sadie, si tu savais comme ils sont nombreux à être venus ici. Ils sont gentils. Ça me touche beaucoup, mais c'est justement cela que je ne me sens pas capable d'affronter. Tu ne comprends pas ? Les autres, ceux qui se moqueront et feront des blagues, je pense que je saurais faire face. En Géorgie, j'ai eu une collègue qui avait un bec de lièvre. Et j'ai beaucoup appris en voyant comment elle gérait la cruauté des adolescents. Mais les autres, ils m'anéantiraient. Les bien intentionnés, avec leurs regards pleins de commisération, et ceux qui ne pourraient pas supporter de me regarder. Elle a inspiré profondément en frissonnant, puis a explosé. Et puis je suis en colère aussi. Je sais que la vie est dure. Je pense que tout le monde le sait au fond de son cœur. Mais pourquoi faut-il qu'elle soit cruelle aussi ? Pourquoi faut-il qu'elle nous morde jusqu'au sang ? Je l'ai prise dans mes bras. Du côté intact, son visage était chaud et palpitait. Je ne sais pas, ma pépette. Pourquoi n'y a-t-il pas de deuxième chance ? Je l'ai gardée contre moi. Lorsque sa respiration est devenue régulière, je l'ai rallongée doucement et me suis levé sans bruit pour sortir. Sans ouvrir les yeux, elle m'a dit « Tu m'as dit qu'il y avait une chose dont tu devais être le témoin mercredi soir. Je ne pense pas qu'il s'agissait de Johnny Clayton se tranchant la gorge, si ? Non. Tu n'as pas pu y assister alors ? J'ai bien pensé à mentir, mais je ne l'ai pas fait. Non. » Là, ses yeux se sont rouverts. Mais c'est une lutte qu'ils n'ont remportée que brièvement. Est-ce que tu auras une deuxième chance ? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. C'était faux. Cela aurait une grande importance pour la femme de John Kennedy et ses enfants, pour ses frères, peut-être aussi pour Martin Luther King. Presque assurément pour ces dizaines de milliers de jeunes Américains qui étaient encore au lycée à cette heure et qui, si rien ne changeait le cours de l'histoire, seraient invités à revêtir un uniforme, à s'envoler jusqu'à l'autre bout du monde et à écarter docilement les fesses en s'asseyant sur le gros god vert qu'était le Vietnam. Elle a fermé les yeux. J'ai quitté sa chambre. Quand je suis sorti de l'ascenseur, j'ai trouvé deux anciens élèves qui m'attendaient. Mike Coslow et Bobby Jill Alnett occupaient deux des chaises en plastique dur. chacun avec un magazine qu'il ne lisait pas sur les genoux. Mike s'est levé et m'a serré la main. De la part de Bobby Jill, j'ai eu droit à une grosse accolade affectueuse.
« Est-ce que c'est grave ?»
me demanda-t-elle.
« Je veux dire... »
Elle effleura du bout des doigts sa propre cicatrice déjà bien atténuée.
« Est-ce que ça pourra être opéré ?»«
Je ne sais pas. »«
Avez-vous parlé au docteur Ellerton ?»
demanda Mike. Ellerton, réputé être le meilleur chirurgien esthétique du centre de Texas, était le médecin qui avait exercé sa magie sur Bobby Jill. Il est à l'hôpital cet après-midi pour ses visites. Deke, Miss Ellie et moi-même avons rendez-vous avec lui dans... J'ai consulté ma montre. Une vingtaine de minutes. Souhaitez-vous vous joindre à nous ?
Oui, merci de nous le proposer,
a dit Bobby Jill.
Je suis sûr qu'il peut l'opérer, c'est un génie.
Alors venez, voyons ce que peut le génie. Mike dut lire sur mon visage car il me serra le bras en disant...
« Ce n'est peut-être pas aussi sérieux que vous le pensez, monsieur A. »